and enjoy the ride.
Popeuses et popeux, bien le bonjour. Vous êtes sur Campus Grenoble, le 90.8, pour votre rendez-vous mensuel de Pop en Stock France, le 39e numéro, les amis. Alors que l'été, c'est pas trop ce qu'il veut faire, mais il a l'air plus ou moins là. Hein, donc on va peut-être pas s'en plaindre. La température de le studio est encore supportable. Voilà, donc j'ai envie de dire c'est une assez bonne nouvelle. Et on va partir sur une émission déjà qui commence à sentir l'été, puisqu'on va reprendre le principe d'un popstorming. Hein, donc si vous suivez l'émission depuis un certain temps, bah, vous savez comment ça fonctionne. C'est-à-dire que chacun d'entre nous va chroniquer, alors pas forcément séparément, mais disons sur des sujets qui ne pourraient pas constituer un sujet global, mais qui vont quand même nous permettre de parler de choses dont nous tenons à parler dans cette émission. Et là, pour le coup, ça va être consacré aux séries télévisées plus ou moins de notre enfance, on va dire, et à la représentation culturelle qu'elles proposent. Alors, pour ce faire, je suis comme d'habitude avec mon corélégionnaire de Subversion Radiophonique, mon déproche de la culture populaire, Jonathan Fruoco.
Bonjour à tous.
Et pour sa toute première, alors bon, je vais raconter un peu l'histoire, mais c'est pas forcément une première finalement dans ce contexte-là-ci, mais Marie-Virginie Ponce est avec nous.
Bonjour.
Salut Marie, ça me fait très très plaisir que tu sois avec nous. Donc oui, c'est pas peu dire qu'on se connaît depuis, depuis qu'on est gosse en fait, et pour ainsi dire, quand on est gamin, on faisait déjà de la radio, alors sur un mode un peu... freestyle,
hein,
je crois qu'on peut le dire, mais oui. Déjà à l'âge de 5-6 ans, on avait compris qu'en appuyant sur un bouton, on pouvait enregistrer des trucs et les conserver. Alors pas forcément pour la postérité, mais non. Par contre au moins pour les souvenirs. Donc là, c'est vrai qu'on est sur un autre mode, donc ça me fait quand même super plaisir que tu sois là, parce que finalement, on peut dire que on réenregistre ensemble pour la première fois depuis moult années,
longtemps.
Et ça fait quand même super plaisir. Et d'autant plus que tu connais et aimes la plupart des séries télévisées dont nous allons parler.
Oui.
Donc, je propose de se balancer un premier jingle que les plus âgés, ou plutôt les plus dans notre génération d'entre vous, vont reconnaître normalement plus ou moins instantanément. On y va. She was walking in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. So over the bridge from Flushing to the Sheffield's door. She was there to sell makeup, but the father saw more. She had style, she had flair, she was there. That's how she became the nanny. Bon, on vous a cuté un petit peu le générique parce qu'il est un poil plus long que ça. Mais voilà, le générique de The Nanny, plus connu en France sous le nom de Une Nounou d'Enfer. Donc série télé américaine qui fait quand même la bagatelle de 146 épisodes. Qui a été créé par Mark Jacobson et Fran Drescher. Et qui a été diffusé chez nous de 93 à 99. Qui a été diffusé sur CBS, pardon, aux États-Unis de 93 à 99, et à partir de 95 chez nous sur M6, soyons précis, et ça fait partie de ces séries d'ailleurs un peu éternellement rediffusées.
Oui.
Il faut dire ce qu'il y a, et ça fait partie des séries finalement qui nous ont énormément marqués. Moi je fais partie de ceux qui la connaissent par cœur, on peut le dire.
Déjà le générique, il est d'anthologie. Hein,
déjà le générique qui n'a pas bougé, mais littéralement pas bougé du tout, d'un iota depuis le pilote jusqu'à l'épisode final. Donc c'est assez significatif dans le sens où ça fait typiquement partie de ces séries sitcom en fait, où en gros vous avez une base de personnages classiques qui vont toujours être ensemble et un nombre de guests quand même assez conséquent qui vont apparaître. Alors on disait pendant l'émission consacrée à Big Bang Theory, on disait que la surpopulation de guests était peut-être un signe, pour le cas de Big Bang Theory, était peut-être un signe de baisse d'audience de la série. Voilà, ces séries où on essaye de rappeler des guests pour essayer de faire remonter un peu la hype. Là, Une Nounou d'Enfer, en fait, ça fait partie de ces séries où il y a toujours eu des guests. Donc, quelque part, ça fait partie de l'identité de la série. Et on va en parler un peu plus tard, il y a même des choses assez méta. La série parle d'elle-même, en fait, autour des épisodes de La Nounou. Et ce que je trouve intéressant surtout, alors on va peut-être rappeler vite fait ce que c'est finalement, c'est assez classique en fait, c'est une jeune femme qui va se faire virer comme une malpropre par son mec et son patron du coup, de sa boutique, de sa boutique de mariage en fait. Et elle va se retrouver plus ou moins à la rue. Et c'est un peu par hasard qu'elle va débarquer chez Maxwell Sheffield, riche producteur de Broadway. Et qu'elle va se retrouver, par un concours de circonstances, engagée comme gouvernante, comme nounou, du coup, des trois enfants. Et elle va un peu évoluer dans ce contexte-là, en fait, Fran. Alors, il faut préciser, du coup, que la série a cette particularité d'être, donc je l'ai dit, produite par Fran Drescher et créée par Fran Drescher. Donc déjà, on a une jeune femme complètement dynamique et complètement à l'aise dans ce milieu-là, qui va prendre en charge elle-même sa propre série. Elle va continuer par la suite avec Du côté de chez Fran, série un peu moins connue, mais qui a quand même fait partie d'une certaine suite en fait de la série, plus ou moins en fait. Il y a des citations de Une nuit d'enfer dans Du côté de Jeffran, mais surtout ce qui est, comme je le disais, elle est assez méta cette série, parce que on le verra peut-être au cours de la discussion, Fran Drescher a quand même eu un vécu on va dire un peu compliqué, et disons qu'elle arrive à brasser des thèmes assez importants, et notamment vu qu'on a voulu axer l'émission sur le côté représentation culturelle. Là, on est vraiment sur la culture un peu juive, avec des personnages...
Complètement même.
Totalement, avec des personnages vraiment hauts en couleur. Donc, la question à se poser peut-être à nous trois, c'est comment on a perçu cette série, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on continue à la regarder avec autant de... Enfin, moi, c'est toujours un plaisir de la revoir, en tous les cas. Quelle est votre approche de la série? Donc, du coup, on va peut-être commencer par toi, Marie.
C'est gentil.
Mais je t'en prie.
Moi, je trouve que la série, elle est super fraîche, en fait. Enfin, à l'image de Fran Fine, en fait. Les images, certes, un peu vieillies.
Un peu vieillies, ouais.
Mais les sujets, de la façon dont ils sont abordés et l'humour qui est tout au long des épisodes, c'est toujours d'actualité. Et du coup, je trouve qu'on s'y retrouve toujours. Ça fonctionne toujours, en fait. Et moi, je trouve que c'est un peu la force de la série. C'est que, un peu comme Friends ou ce genre de série, qui est un peu moins vieille, mais malgré tout, voilà, ça fonctionne toujours. Et on a toujours autant de plaisir à les regarder. Et toutes les citations, on les connaît par cœur, mais on va les dire en même temps qu'on voit les épisodes et ainsi de suite. Ça, c'est le
exactement.
Gros point.
D'autant qu'elle brasse, justement, tu l'as dit, des thèmes dans lesquels on peut se retrouver. Plus ou moins facilement, mais des thèmes qu'on connaît, c'est-à-dire il y a l'idée, le mariage, qui porte vraiment toute la série. Il y a l'idée de réussir sa vie, il y a beaucoup de questionnements sur les classes sociales, parce que du coup, Fran, c'est quelqu'un qui est issu des quartiers un peu populaires,
oui.
tandis que les Sheffield, c'est vraiment le haut du panier, c'est vraiment la haute société, l'aristocratie. Et en fait, Fran, elle arrive et elle met les pieds dans le plat, mais littéralement, en fait, tous les épisodes quasiment fonctionnent sur le fait que Fran fait une connerie en fait, en pensant bien faire, et du coup l'épisode va passer sur la résolution du problème. Et on a des personnages vraiment hauts en couleur, par exemple typiquement Niles, moi c'est vraiment mon petit préféré de la série, c'est le majordome britannique par excellence, mais il est toujours en porte-à-faux avec Sissy Babcock, qui est l'associée de Maxwell Sheffield. Et du coup, ils vont passer l'intégralité de la série quasiment à s'envoyer des fions.
Enfin, c'est génial.
Surtout Niles. Et ça donne des punchlines et des dialogues qui sont mais à tomber. Quoi. C'est merveilleux. On signalera d'ailleurs que la doubleuse de Fran en VF, c'est Marie Vincent. Marie Vincent qui est, pour l'anecdote, entre autres, la Castafiore dans la série animée de Tintin, pour ceux qui se tuent.
Ah bah.
Et du coup, elle a vraiment une voix... Ce qui m'a surpris en fait, dans la VO de cette série... C'est que Fran a une voix encore plus haut perché
plus nasillarde.
Voilà, beaucoup plus nasillarde. Et ça fait partie en fait de la série, c'est que elle a une voix vraiment très particulière, un ton de voix vraiment très particulier. Et du coup, les personnages jouent là-dessus aussi, sur le fait que déjà c'est un personnage qui fonctionne comme une véritable tornade et qui ne se tait jamais en fait finalement, et qui est toujours en train de relancer. Et ça fait partie de la fraîcheur que tu citais pour
et
moi.
Et avec un grand cœur surtout, je trouve aussi. Quoi.
Ouais.
Elle est fofolle, mais elle est
énormément de valeurs humaines dans cette série, justement.
Ouais.
Ouais. Et toi, Jonathan, quelle est ton approche de la série?
Moi, ce qui m'avait fait particulièrement plu à l'époque, alors, en termes de références culturelles, quand on a commencé à regarder ça, on était gosses, donc il n'y avait pas forcément de contexte ou quoi.
Ouais,
Mais la différence qu'il pouvait y avoir avec d'autres sitcoms de l'époque, c'était l'humour juif qui était vraiment palpable.
Complètement.
Et même si, alors c'est le grand cliché hein, de le monde de la comédie new-yorkais mmh. est avant tout juif, il a longtemps été, maintenant c'est un peu changé, mais à la base c'était ça. Donc il jouait beaucoup sur cette idée de la représentation culturelle de juif, avec justement du yiddish au milieu pour essayer de varier un peu. La famille de Fran qui s'incruste littéralement chez Maxwell, mmh. Même pendant une période, je crois, sa mère vit là-bas à un moment donné. La grand-mère y étant, on n'arrive pas à la foutre dehors non plus.
Ouais.
Donc, il y a ce côté-là qui, moi, m'avait particulièrement marqué à l'époque.
Ouais. Ben, par rapport à ce que tu disais, il y a un épisode en particulier qui me le rappelle, c'est un épisode où la nanny de Maxwell, donc l'ancienne gouvernante de Maxwell, donc gouvernante allemande, débarque chez lui. Et en fait, c'est vraiment la gouvernante à la mode gouvernante. Mais genre, on déconne
à
pas.
À l'ancienne.
Quoi. Ouais. On déconne pas vraiment l'ancienne. Mmh. Et du coup, on voit vraiment la fracture qui existe entre le personnage de Fran et le personnage de cette gouvernante-là. C'est parce que, en gros, Fran n'a pas à être à la place qu'elle occupe dans la maison de Sheffield. Parce que du coup, elle a pas un rôle de... On va vite se rendre compte que c'est pas un rôle de gouvernante classique, en fait.
Elle prend des libertés.
Elle prend des libertés.
Oui. De ton et de tout, finalement.
C'est ça.
Même vestimentaire, oui.
Oui.
Ouais, elle est
clairement, pas... ouais, non, mais bah, clairement, la façon dont Fran est fringuée la totalité de la série.
Exactement.
D'ailleurs, ça pose problème quand elle finit par rencontrer même les parents de Maxwell, ouais. quand dans les dernières saisons, ils finissent par se marier. Le contraste culturel entre Fran et malgré toute l'affection qu'elle peut avoir et tout l'amour qu'elle peut avoir pour Maxwell et pour les enfants qu'elle a aidé et sorti du trauma de la mort de leur mère, mmh. littéralement à elle toute seule, et ben les grands-parents ils s'opposent à un moment même à l'adoption des gosses par Fran. Voilà, il y a un clash complet, mais qui n'est pas un clash lié au fait qu'elle soit un peu plus, on va dire, faux-folle, mais c'est clairement un problème culturel, et c'est une différence de classe sociale clairement qui va être marquée.
Mmh. Je trouve que la série aborde les choses de façon fraîche et intelligente, sans tomber dans le cliché. Ouais, pas trop dans le bièvre, justement. Genre, il y a un épisode. Alors, si, c'est un peu la. On va dire. Pas la méchante de la série, mais un peu la pimbèche, celle qui est un peu.
Follement amoureuse de Maxwell et donc jalouse de Fran.
Voilà, jalouse de Fran, et puis il y a cette espèce de climat je t'aime moi non plus avec Niles,
oui.
qui va, bon, je vous le dis, ça finit bien, hein. c'est vraiment pas une série, bon, voilà, il y a prescription là, mais disons que c'est vraiment pas une série où on va aller dans des gros dramas, parce que tout se finit toujours par s'arranger, et en fait tout le monde finit plus ou moins ensemble avec les couples qu'on avait supposé, voire même vu clairement tout au long de la série. Et c'est vrai que, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une série qui s'étale sur 6 saisons, donc sur 6 ans. Ça veut dire que les personnages, vous les voyez, alors, vieillir, mais surtout à défaut, grandir. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un énorme contraste, par exemple, entre le petit Brighton et le Brighton adolescent qui va finir par quitter la maison à la fin de la série et aller se promener pour ses études. Et ça permet à la série, en fait, d'aborder les choses dans sa propre temporalité. C'est-à-dire que ça fait vraiment un an, deux ans, trois ans, puis six ans qu'elle est dans la maison. Donc du coup, on voit vraiment des thématiques qui évoluent et des rapports qui évoluent beaucoup. Les personnages sont plutôt figés dans leur...
dans leur fonction.
Voilà, dans leur fonction, mais par contre, ils évoluent quand même dans les relations qu'ils entretiennent entre eux. C'est ça que je trouve assez fort quand même.
Oui, parce que la famille même de Fran, par exemple, qui au début, bon, on la voit un peu de l'extérieur, hein, c'est l'élément un peu perturbateur. Je disais qu'il s'incruste un peu dans la maison de Maxwell, mais même en termes de relations avec les enfants chez Field, aussi bien la mère que la grand-mère de Fran deviennent des grands-mères potentielles.
Pour
et clairement,
gamins.
Voilà, elles ont énormément d'affection pour les gosses, et ça se ressent. Et ça évolue au fur et à mesure de la série, justement, plus ils apprennent à se connaître, plus ça va évoluer. Donc les parasites deviennent au final des membres à part entière de la famille dont on ne peut plus se passer.
C'est ça.
Et d'ailleurs, ça fait un peu aborder le thème de la famille recomposée. Quoi.
Exactement.
Même si je ne suis pas sûre qu'à cette époque-là, c'était très courant, entre guillemets. En tout cas, chez nous, je ne crois pas.
Il y avait une série dans les années 90, justement, sur une famille recomposée. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'était...
Et pas la fête à la maison.
Notre belle famille. Ouais, c'était notre belle famille. Où justement c'était, je sais plus combien il y avait de gosses, et c'était une famille recomposée. Donc c'était une sitcom basée justement sur ce principe.
Ouais.
Six, ils étaient six.
Donc du coup, merci à notre prompteur vivant dans le studio. Du coup, oui. Et merci d'être intervenue, Marie, parce que j'ai posé la question. En fait, c'est marrant parce qu'en venant ici, on parlait un peu de l'affection qu'on avait et le côté famille très soudée. Et je trouve que c'est un thème, justement, la famille soudée, qui est au centre vraiment de la série. C'est-à-dire du côté de Fran Fine, j'allais l'appeler Fran Drescher. Oui. Par réflexe. Du côté de Fran Fine, la famille passe avant tout. Et finalement, bah, Maxwell et ses enfants, et même le valet qui a une place à part entière, hein, c'est vraiment un ami de la famille. Ouais. Voilà, donc ce thème de la famille est vraiment central. Et ils se soutiennent les uns les autres. Et ils s'aiment les uns les autres. Et en fait, ça me faisait penser au fait qu'avec les discussions qu'on a eues là tout récemment, je me disais, est-ce que finalement, on ne sait pas. Alors, pas pour le côté forcément juif, mais au moins ce côté famille. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu plus ou moins identifié
à ça ? Oui, je pense complètement, oui. Et puis, il y a aussi, enfin, je voulais souligner le fait que Fran, elle est pour moi vraiment le lien entre tous les personnages. Et il y a même parfois où, du côté de la famille Sheffield, si je me rappelle bien, Maxwell ne s'entend pas forcément très bien avec ses parents, au moins sa mère. Et souvent, Fran vient rajouter son petit ou son gros grain de sel pour justement que ça finisse bien, que les gens s'entendent bien. Mmh. Et je pense que c'est ça aussi un des fils rouges, c'est que elle va toujours apporter sa patte, un peu maladroitement, un peu de façon extravagante, mais c'est elle qui va aussi tenir un peu tout le monde dans un espèce de foyer, quoi, au final. Mais je pense que oui, je pense que je me suis identifiée un petit peu dans cette espèce de famille, même si c'était pas du tout le même modèle que chez moi, mais ce côté cocon en fait.
Ouais, c'est ça. Surtout qu'en fait, typiquement, tu l'as sous-entendu, en fait, Fran ne peut pas supporter que des gens ne s'entendent pas en fait.
Oui.
Alors même qu'avec sa mère, voilà, elle c'est vraiment le clicheton de la mère juive. Hein.
Ah, oui.
On parlait un petit peu des mamans à midi, des mamans un petit peu possessives. Mais là, c'est à un degré. D'ailleurs, j'ai perdu le nom. Renée Chagall, cette actrice, elle est magique.
Elle est
absolument magique. Là. Ouais. Si vous n'avez jamais vu la série, franchement, foncez. Et la mère de Fran, mais c'est...
Elle en fait des caisses.
Ah, mais c'est incroyable. Ouais. Alors, par contre, c'est le cliché. Mais alors, le cliché de la mère juive. Mais...
Avec les fauteuils plastifiés chez elle. Voilà.
C'est merveilleux. Et puis,
la tenue tout aussi vulgaire que celle de Fran, mais avec des problèmes de poids et d'âge en plus. Donc,
et de nourriture, voilà.
Ça rend la chose assez étrange par moments. Mais...
Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, entre guillemets, avec la relation entretenue d'une part entre Fran et sa mère et entre la mère et le père de Fran, c'est en fait, tu comprends, en gros, ce qui est rigolo avec Marty, c'est que ça va être un peu, c'est le mari de Sylvia, donc la mère de Fran, tu comprends qu'il est tout le temps là, mais pendant quasiment toute la série, tu ne vas jamais le voir.
Ouais.
Il va toujours être en arrière-plan. Et en fait, d'après ce qu'on comprend, oui, ils sont ensemble, mais tu comprends que c'est peut-être pas l'amour fou. Et finalement, la série évolue de telle sorte que tu comprends que la relation des parents de Fran, elle est basée sur une habitude et sur un respect mutuel. C'est-à-dire
La relation des parents de Fran, c'est la relation de tout couple marié depuis 40-50 ans. C'est-à-dire que c'est plus une question d'habitude de vivre ensemble qu'autre chose. La passion originale, elle est toujours là en fond, mais elle est moins palpable jour le jour.
Exactement.
Il s'envoie plus de fions qu'autre chose, mais il pourrait pas vivre l'un sans l'autre malgré tout. Et Marty, il est là dans le fond. Au début, c'est vrai qu'on le voit jamais. Il n'y a pas d'acteur qui incarne Marty pendant très longtemps. C'est soit une moumoute posée à droite à gauche pour nous faire signe qu'il est là, soit. Voilà. Donc, on parle de lui un peu plus ou moins en mal, mais voilà, c'est le cliché aussi du couple marié depuis 40 ans.
Voilà, et puis typiquement, la relation mère-fille, Fran et Sylvia, c'est typiquement le je t'aime, moi non plus. Il y a parfois du drama, mais c'est un drama qui va toujours être résolu en fin d'épisode. C'est ça qui est...
En fait, là où je trouve qu'ils ont été forts, c'est que justement, on disait que Sylvia, elle fait quand même assez vulgaire, quoi, avec les façons de s'habiller, ces gros clichés et tout ça. Mais au final, il y a un espèce de... Je sais pas, ils l'ont tourné de telle sorte qu'il y a une affection pour les personnages et que même si elle est super clichée, on l'aime bien parce que même quand il s'envoie des fions avec Fran ou avec son mari à elle ou quoi, je sais pas comment ils ont réussi à faire que ça c'est sympa.
C'est comme Yetta. Yetta, l'humour de son personnage repose sur le fait qu'elle est constamment à côté de la plaque.
Elle est sénile, quoi.
Elle est complètement sénile, mais... tu peux pas. D'ailleurs, tu me parlais de cet épisode-là en particulier, Jonathan, l'autre jour. Un épisode où, en fait, Cheetah et Brighton se sont paumés l'un l'autre.
Oui, oui. Et... ils passent l'épisode à se chercher.
Oui.
Et en fait, quand ils se retrouvent, à la fin de l'épisode, c'est en mode ralenti, alerte à Malibu. Tu
vois, elle cherche. Ah, voilà, elle se souvient plus déjà du nom de Brighton. Elle l'appelle Schmoé. Et elle le cherche tout le long. Et elle s'inquiète. Elle arrive en larmes en disant j'ai perdu Schmoé, j'ai perdu le petit Schmoé. Lui revient en disant à Fran, je crois, ou à Niles, j'ai perdu grand-mère Yeta, j'ai perdu. Et personne fait le lien entre les deux qui sont perdus alors qu'en fait ils sont dans la même maison.
Ouais. Et finalement,
ils se tombent dans les bras à la fin l'un de l'autre au ralenti.
Et tu te rends vite compte que Yeta ou Sylvia, finalement, c'est un peu notre grand-mère à tous ou notre maman à tous.
Ouais.
Et on a. Oui, on a envie de les exiler en Floride des fois, c'est d'ailleurs ce que Fran essaie de faire.
Qui est un autre grand cliché des séries juives.
Oui, complètement. mais après, c'est ce que j'aime bien dans cette représentation, j'en bafouille, pardon, là, c'est que, en fait, c'est cliché et c'est moqueur, mais c'est moqueur dans le bon sens. C'est de la moquerie assumée, c'est un humour gentil et c'est pas insultant. Je trouve que c'est du recul sur soi-même. Et je trouve que Fran Drescher, pour le coup, l'a très bien saisi, ça.
Alors, je pense que j'ai lu du coup que en fait, elle a beaucoup basé la série sur, l'histoire en fait est basée sur sa propre histoire.
Oui.
Et qu'elle y a beaucoup mis d'elle-même au final, et que même pour l'idée de la série, parce que Peter Mark Jacobson est son mari en fait, et alors je vais pas dire de bêtises, mais pour pouvoir lancer la série, le producteur sûrement, en fait elle l'a rencontré dans un avion en allant à Paris, bref, et elle a insisté auprès de lui en lui disant c'est mon projet, c'est une super série et ça va marcher. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi, tout à l'heure, on se posait la question si on s'identifie un peu, c'est que toutes ces histoires de clichés, de moqueries et ainsi de suite, c'est ce qu'on pourrait faire nous-mêmes dans notre propre famille. Et ça se passe bien quand même parce qu'on sent qu'ils ont réussi à faire en sorte de dire que les gens s'aiment en fait.
Ouais.
Donc c'est pas méchant, c'est juste, c'est la famille quoi. On s'envoie péter, mais on s'aime. Je pense que ça doit jouer.
Et en cela, j'ai un immense respect pour Fran Drescher parce que, alors je ne la connais pas personnellement, hein, évidemment, mais... dommage, oui. Mais elle me fait l'effet de ce que j'ai lu sur elle et de ce que j'ai vu, de ce qu'elle faisait. Elle me fait l'effet d'une femme justement battante qui va jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est rigolo, mais quand je disais qu'il y avait des références méta, l'anecdote que tu soulèves comme quoi elle aurait rencontré son producteur dans un avion, elle la rejoue, ça, un moment dans un épisode. Elle croise un producteur de CBS.
Ah oui, c'est
et
vrai.
Pendant tout le voyage, elle va lui raconter son truc. Et je crois que le mec finit par demander à sauter en parachute. c'est constamment du recul. Et d'ailleurs, des fois, c'est tellement méta que Fran Drescher rencontre Fran Drescher elle-même. Il y a un moment, Fran Drescher incarne son propre rôle dans la série. Mais en fait, t'as Lanoune d'un côté et la vraie Fran Drescher de l'autre. Ils sont partis dans un truc complètement méta. Et d'ailleurs, ça joue même dans les guests. Il y a un moment donné, t'as Whoopi Goldberg qui joue un autre rôle qu'elle-même, mais à des moments où Whoopi Goldberg joue le rôle de Whoopi Goldberg. Tu sens vraiment que, en gros, elle a réuni sa famille du showbiz en fait.
Oui,
et tu sens vraiment qu'elle a un amour, une affection. On parlait de Dan Aykroyd l'autre jour, et la façon dont il l'avait soutenu, aidé dans des histoires un peu sorties de Fran Drescher. Et voilà, on sent qu'il y a vraiment une affection entre ces acteurs.
Dan Aykroyd qui fait d'ailleurs un caméo à un moment donné.
Ouais, un plombier.
Oui.
Un plombier.
Dans un des premiers épisodes.
Donc voilà, on sent vraiment que c'est une série où Fran Drescher a mis beaucoup d'elle-même. Elle a assumé jusqu'au bout son projet. Et je trouve que c'est quand même. C'est en cela que j'ai beaucoup de respect pour cette série. Même indépendamment du fait qu'elle me fasse beaucoup rire et qu'elle me console même à certains égards. Quoi. Voilà.
Ouais.
C'était ma déclaration d'amour. Ah,
c'est très beau.
Un enfer. Voilà, puis effectivement, je crois qu'on l'a dit, hein, Marie, ça nous rappelle plein de souvenirs finalement.
Oui.
Ça nous rappelle des canapés, ça nous rappelle des moments d'enfance finalement.
Bah, c'est ça, comme tu disais, 6 ans.
Ouais, bah ouais. Ah, c'est...
6 ans pour nous aussi, quoi.
6 ans pour nous aussi. Si vous avez l'occasion, donc, voyez cette série. Elle n'est pas trop, trop difficile à trouver. Franchement, ça vaut le coup. Voilà. On vous la conseille. On va vous faire une petite pause musicale comme il est de tradition dans cette émission. Et on se retrouve tout de suite après avec une autre série très générationnelle. On vous laisse la surprise.
Oui, et petite pause musicale dédicace.
Oui.
La personne concernée se reconnaîtra. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did,
I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions and a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked off the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world.
Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8 pour l'émission Popost en France. Et même si avec Marie, nous avons quelques hypothèses quant à la dédicace qui vient de passer, je dois dire que c'était très mignon, Jonathan.
Très belle chanson.
Ah, très, très, belle très, très belle chanson. C'était tout beau. Et à voir le visage souriant de Marie, je gage, comme la plupart d'entre vous sans doute de notre génération, qu'elle a reconnu le générique qui vient de passer. C'était le générique de Parker Lewis, ne perd jamais. Une série, c'est peu dire elle aussi qu'elle a marqué notre génération. Puis je crois que c'est une série qu'on a tous vue. On est d'accord là-dessus?
Oui.
Je pense qu'on l'a, voilà. Parce que c'est vrai que pour préparer cette émission, on était en mode ah ouais, mais il faut qu'on arrive à trouver une série qu'on a tous vue. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait des blindes. Qu'on avait vu, et c'est l'occasion de parler de Parker Lewis ne perd jamais, qui était quand même une série, voilà, je le dis emblématique, de son titre original Parker Lewis Can't Lose, 73 épisodes pour le coup, 3 saisons, créées par Clyde Phillips et Lon Diamond, et qui date 90-93 du coup, et chez nous à partir de 92, voilà. Une série pas forcément énormément rediffusée, du moins j'en ai pas connaissance. Une série qui est enfin sortie en DVD. Alors bon, ça fait depuis 2016, mais rendez-vous compte quand même de l'âge de la série maintenant. En fait, ils ont eu beaucoup de problèmes de droits justement pour la sortie. Et ça a mis beaucoup de temps à arriver, mais ça y est, le coffret intégral existe. Et quand je l'ai vu, bah, genre, c'était un peu un passage obligé, quoi. Revoir Parker Lewis ne perd jamais, c'était assez... assez important. On en a vaguement parlé lors d'un popstorming précédent, il y a quelques temps de ça, quand on parlait justement des années 90 et surtout d'un film qui nous avait marqué, qui avait marqué notre ami Tristan, c'était La folle journée de Ferris Bueller. Film qu'on vous conseille hein, si vous ne le connaissez pas. Mais justement, en fait, Parker Lewis ne perd jamais, c'est considéré comme l'héritière spirituelle de La folle journée de Ferris Bueller avec... donc dans Ferris Bueller, cet adolescent qui décide de tout envoyer péter et de vivre sa vie justement pendant une folle journée et voilà d'assumer pleinement son statut d'ado qui va vivre sa vie à fond. Et en fait, Parker Lewis ne parle que de ça. Parker Lewis, c'est vraiment la bande de potes au lycée et qui font face aux galères du lycée, mais d'une manière bien particulière, parce que la série a quand même une identité qui a fait qu'elle est devenue culte. Il faut savoir qu'elle s'est annulée au bout de 3 saisons parce que entre la saison donc 1, 2 et surtout entre la saison 2 et la saison 3, il y a eu une immense fracture de ton. On était sur une série assez cartoonesque. Voilà, une série qui...
Avec beaucoup d'onomatopées.
Voilà, énormément d'onomatopées, des scènes assez grandiloquentes et voilà, des bruits justement assez significatif et des trucs voilà, qui ne fonctionneraient que dans les cartoons, à une série beaucoup plus mature, enfin mature, beaucoup moins axée sur ce côté cartoonesque. Mais bon, j'ai une hypothèse sur la fin de la série, parce que pour moi, la fin de la série peut constituer une fin en soi, mais on en parlera après. Mais voilà, je dirais que ce qui a fait l'identité de cette série-là, c'est justement son côté cartoonesque qui arrive à désamorcer un peu les difficultés de la vie du lycée, parce que du coup on a 3 potes, donc Mickey, Parker et Jerry, voilà, donc qui eux aussi hein, comme pour une nuit d'enfer sont des gens assez clichés hein. Typiquement Parker, c'est Ferris Bueller, dans le sens où on ne peut pas détester Parker Lewis, c'est le mec cool en fait, c'est
l'ami de tout le monde,
voilà, c'est le pote de tout le monde, c'est
il rend service à tout le monde,
il est improbable, voilà. Il existe pas, ce mec là ou du moins il existe plus peut-être pardon pour la vision un peu pessimiste du truc, mais d'ailleurs je me permets de vous conseiller si jamais vous chopez l'édition DVD intégrale, déjà pour la collection c'est cool, et en plus dans un DVD il y a un documentaire bonus qui s'appelle Une histoire de la coolitude, donc Story of Coolness, où en fait les acteurs, pour la sortie DVD, donc en 2016, reviennent sur leur parcours dans la série. Donc des fois il y a des coups de vieux, hein. Typiquement la petite sœur de Parker,
elle est vieille.
Elle est vieille, disons qu'elle est plus âgée que toi.
Elle est morte de vieillesse.
Non, c'est dommage. Non, on va éviter de leur souhaiter le décès quand même.
Non,
mais voilà, ils reviennent vraiment sur le parcours de la série et vous aurez des anecdotes assez intéressantes, notamment le fait que la petite sœur de Parker et Jerry étaient deux acteurs assez jeunes par rapport au reste du cast. Et en fait, c'était un tournage école parfois pour eux, parce que du coup, ils allaient à l'école dans le... sur le lieu même du tournage, quoi, pour ne pas qu'ils perdent leur niveau en scolaire, ils avaient des cours dans les cours en fait. Ils jouaient dans un lycée, mais ils allaient vraiment à l'école à certains moments du tournage, donc c'est assez rigolo à savoir. Et puis voilà, des personnages absolument emblématiques, quoi. La principale.
Complètement barrée.
Musso. Ouais. C'est Grace Musso. C'est Grace
qui,
Musso,
qui c'est. Qui pète une porte par épisode.
C'est ça. Ouais. Une vitre. Ouais. Une vitre par épisode avec son pouce meurtrier, avec le fameux bruit de pouce. C'était. Ouais, ça faisait partie des. Avec ce côté. ce côté absolument incroyable où les élèves étaient littéralement attirés par l'aura démoniaque de Musso. Ouais.
Et de son bras droit un peu gothique, l'émeur. Vampire, l'émeur.
Ouais. L'émeur, ouais. Absolument fan de l'armée et qui apparaissait à la manière d'un vampire. C'était magnifique, des couleurs Kubiak, Larry Kubiak,
ouais.
Le mastodonte au grand cœur qui passe son temps à bouffer, qui fait trembler.
Des poissons vivants.
Des macros, ouais.
Qui marche sur les écureuils.
C'est ça, qui marche sur les écureuils, qui faisait littéralement trembler tout le lycée quand il marchait. C'était, voilà, la série se prenait pas vraiment au sérieux dans les premières saisons et c'est ça qui a fait le sel. Et je me rappelle en avoir regardé quelques épisodes chez toi, Marie, t'as qu'à voir.
Ah bah oui, c'est fort possible, oui.
Pour te dire, il y a un épisode où, ça aussi ça m'a beaucoup marqué parce qu'on a joué à la console quand on était gosses, nous deux. Et en fait, il y a un épisode où Jerry tombe complètement accro à la console et en fait, ses potes essayent de le sevrer de sa console. Et en fait, tu le vois cauchemarder à la Mega Drive dans l'épisode.
Oui.
Et tu dis, ah là là, c'est tellement mon enfance.
Encore une fois, où on s'identifie au personnage.
Ah ben totalement, mais c'est ça. Hein. C'est ça, parce que du coup, Parker Lewis, c'était notre pote. Très clairement, oui. C'était le pote de tout le monde. Et quand on regardait Parker Lewis, on savait que ça pouvait pas mal se terminer. Qu'il allait, bah oui, c'est même le principe de la série, c'est Parker Lewis, can't lose. Voilà, ouais. Il ne perd jamais.
C'est vrai que c'est un côté hyper rassurant,
hyper optimiste. Hyper optimiste.
C'est agréable à regarder comme série, quoi.
Oh, wow.
De par le fait.
et les éléments se déchaînent à l'extérieur du studio.
Oula.
Ça y est, ça commence. C'est... Ouais. On parle de Kubiak, ça y est, il est là.
Il est là.
C'est typiquement un bruit à la Kubiak. Donc
cachez vos écureuils.
Pareil, cachez vos écureuils. Eyes of Squirrel, Eyes of Squirrel. Donc voilà, même question. Comment vous avez découvert la série et quel a été votre rapport à ça? Alors je crois toi, Jonathan, tu avais vu La Folle Journée de Ferris Bueller?
Non, bien après. Non.
Bien après.
Oui, oui.
Ouais, ouais. Ouais. Et donc du coup,
je saurais même pas te dire quand exactement j'ai commencé à regarder Parker Lewis. Ça passait à la télé, donc je saurais même pas te donner une année exacte. Donc visiblement dans les années 90, à l'époque où c'était diffusé.
Ouais.
Donc j'ai beaucoup regardé parce que forcément à l'époque, eh ben, on regardait un peu beaucoup tout ce qui passait. Il y avait pas énormément trucs. Mais ouais, l'optimiste du truc nous parlait déjà pas mal.
Ouais, et puis des trucs en fait qui nous ressemblent. Ils ont une planque, ils ont des signes distinctifs. Bah,
c'est-à-dire que bon, moi, clairement, j'étais pas au lycée à l'époque,
oui,
donc
oui.
Ce qu'ils vivaient au jour le jour, ça me paraissait un peu abstrait. Hein. Mais le fait de ce groupe d'amis qui se réunit et qu'il arrive des aventures et que ça finit toujours bien, bah, c'est pas un mauvais moyen de passer le temps non plus
Il y avait un côté, on avait envie d'être soit comme eux, soit avec eux. En fait.
Ouais, c'est
ouais,
ça.
Ouais, ouais, ouais. Mm. Et on parlait des tenues vestimentaires de Fran. Bah là, typiquement, Parker, c'est pareil. Les chemises de Parker, vous vous rappelez?
Ah, bah elles sont ancrées dans l'époque.
Incroyable.
Ouais.
Fin des années 80, début des années 90. Hein.
Les chemises de Parker Lewis, légendaires, quoi.
Ah, oui, les chemises, les coupes de cheveux, etc.
Ouais.
C'est ça. Il y a deux, trois éléments, je trouve. Quand on me dit Parker Lewis, je vois effectivement l'acteur principal.
Ouais.
Sa coupe, son broche.
Ouais.
Ses chemises improbables et la Musso la folle et Kubiak. C'est les premiers trucs qui me viennent en tête. Moi, c'est un peu comme Jonathan, je ne saurais pas dire quand vraiment j'ai commencé à regarder ou quoi. Mais comme tu le disais, ça passait et du coup, on me laissait regarder, même si c'était un peu barré. Et du coup, c'était le côté, la série sympa qu'on regarde avec plaisir. Quoi.
Et ça fait un peu partie de ces séries qu'on a toujours connues, en fait, finalement.
C'est ça.
C'est ça qui est fou, c'est que... C'est qu'il y avait... Alors, petite anecdote marrante, je suis quand même passé de la VF à la VO pour voir. Alors bon, pareil, hein, comme vous tous, je me suis habitué à la VF avant tout. Et en fait, en VO, Jerry a une voix hyper sérieuse, alors qu'en VF, on en avait un petit peu parlé il y a très longtemps. Mmh. En fait, Jerry a un peu cristallisé le personnage de nerd dans la culture.
Oui.
Et il a une voix, mais on parlait de la voix de Fran, mais la voix de Jerry, c'est pire. Quoi. C'est Monsieur Kubiak. C'est ce genre-là. Quoi. Alors,
il a une voix de victime assez agaçante, assez, toujours à la limite de... En train de il ne parle pas, il crie pratiquement tout le temps. C'est le cliché du nerd. Et pour le coup, le fait que AVF ait accentué ça par cette voix-là, en dit long sur la génération dans laquelle...
Oui, mais
a été développée cette série.
Je trouve que c'est quand même.
On était sur une représentation du nerd qui est encore le freak, quoi. Clairement.
Oui, voilà, oui, c'est ça. Le mauvais cliché.
Voilà.
Mais quelque part, il s'en sortait bien, quoi, finalement.
Bah, c'était l'intello du groupe.
C'est ça.
Ouais.
Avec toujours son ordinateur,
avec la faculté de sortir tout et n'importe quoi de ses poches.
C'est ça.
Voilà. Ah, oui.
Avec des phrases cultes aussi, hein, le nos problémos, synchronisation des montres.
Ah oui,
synchronisation des montres.
Et ah oui, j'avais zappé celle-ci.
Et oui, oui, bien sûr.
Synchronisation.
Ah bah ouais, c'était complètement. Et puis des références à pop culture, évidemment. Quand tu vois Kubiak qui se déguise, qui sert à un moment donné de bras droit à Musso et qui se déguise en Terminator pour scanner les élèves, c'est typiquement, on est typiquement dans cette mouvance-là. Et alors, je voudrais quand même revenir sur la dernière saison de la série, dont les gens se rappellent parfois un peu moins ou qui déçoit les gens ou qui. Mais comme je l'ai dit, on est vraiment dans un côté beaucoup moins cartoonesque, où en fait, il y a des questions beaucoup plus sérieuses qui se posent. Et finalement, on parlait de la famille, on parlait du fait de grandir. Et bien finalement, pour moi, cette troisième saison, même si elle a été déçue et qu'elle a entraîné à terme l'annulation de la série, je la trouve pas forcément déconnante dans le sens où, justement, déjà, à partir de la troisième saison, la série s'appelle plus Parker Lewis ne perd jamais, mais simplement Parker Lewis. Et alors, c'est une interprétation, Jean-Michel Interprétation, bonjour, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je trouve qu'en fait, ça nous parle d'un parcours de vie, en fait, où justement les problématiques du lycée sont laissées derrière. Il va, donc Parker Lewis et sa bande vont rentrer à la fac, en fait. Et Musso va plus ou moins quitter son poste. Et en fait, le running gag de la saison 3, ça va être de trouver quelqu'un pour caser Musso. Et en fait, je trouve que... c'est intéressant de voir l'évolution des personnages par rapport à ça. Parce que la série est beaucoup moins cartoonesque, mais elle continue à être à peu près drôle. Et justement, ils grandissent, quoi. Ils ont des intérêts plus ciblés. Parker se case vraiment avec une copine. Y a un épisode très intéressant où en fait l'idée, c'est de déniaiser Jerry. Et pour eux, déniaiser, ça veut dire emmener dans une boîte avec des filles nues. Et en fait, l'épisode arrive à revenir un peu sur le truc en disant « Ouais, mais est-ce que devenir un homme, c'est forcément regarder des filles nues se déhancher, quoi ?» Et ça pose ce genre de questions. Et je trouve que c'est...
Ça donnait un côté plus profond, du coup.
C'est ça, ouais.
Je trouve que c'est plus intéressant. Et je me rappelle d'une conversation qu'on a eue par rapport à Kubiak, où la personne m'avait dit « Ouais, mais tu comprends, on se moque un peu des obèses, ça stigmatise et tout. » J'en suis pas certain, en fait.
Mais il avait un côté sympathique.
Il y avait un côté sympathique. C'est un nounours au grand cœur, Kubiak.
Ouais, c'est ça.
Donc je pense que cette série était vraiment empreinte de bons sentiments, en fait. Alors peut-être, je sais pas, un peu maladroit dans ses représentations, puisque c'est ça, on parle de représentation. Mais je trouve que ça parlait bien des ados qui ont envie de vivre leur vie et de grandir progressivement et de pas trop s'en faire pour la vie, finalement, de prendre les choses comme elles viennent. Donc non, je trouve que la série réussit ce pari-là. Enfin, c'est ce qui me semble. Donc voilà, si vous avez des ajouts à faire, faites-le, c'est le moment.
Non, moi ça va.
Non, non.
Bon, bah voilà, je suis content quand même d'avoir pu parler de cette série. Et nous allons aborder le troisième temps de cette émission. Donc je te l'avais dit avec une pause musicale qui t'est dédiée, Marie. Alors on
c'est
est gentil. Un peu moins romantique que,
c'est pas
que,
bien
que, que la pause d'avant. C'est complètement clubbing, mais je te l'ai dit, c'est une musique qu'on a connue tous les deux. Hein. Nad Quarters. Push the Feeling Gun, 95 en France.
Oh yes.
Voilà, qui est devenu un tube mondial. Ils ne sont pas foulés sur les paroles, mais pourtant, ça a matché. Ça a matché à l'époque.
Tant que ça vend.
Ça va peut-être vous rappeler des souvenirs, et pour ceux qui n'aiment pas, courage. Allez, allez, on se retrouve après. Thank you. Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8 pour l'émission Pop Stock France, alors que les éléments à l'extérieur du studio se déchaînent et ça commence à m'inquiéter. Pour le moment, on devra sortir de là. Mais enfin bon, on va s'en sortir. Donc on est pour le moment encore dans le contexte d'une émission consacrée aux séries télé et la représentation culturelle et on va dire nostalgique qu'elles ont pu avoir sur nous avec Marie qui est avec nous. Et j'étais un peu embêté pour la série dont on va parler, dont vous avez peut-être reconnu le générique, parce que justement je me suis dit « Ah mais il n'y a pas de générique !» Parce que la série commençait un peu d'entrée de jeu, et si en fait il y avait ce petit riff de trompette un peu jazzy, donc qui fait office effectivement de générique. Ma famille d'abord, My Wife and Kids, dans sa version originale. Alors Marie me faisait remarquer à juste titre que en fait elle est beaucoup plus récente que les séries dont nous avons parlé.
Ah bah oui.
Ce qui est vrai. Non mais je effectivement.
C'est
mais...
plus ces années 2000 quand même.
Oui ouais. Voilà c'est ça. Ouais. C'est vraiment début 2000 pour le coup. Et on se faisait la réflexion en antenne. Ça fait partie de ces séries éternellement rediffusées en France. Hein. C'est simple. L'été commence à partir du moment où Ma Famille d'abord repasse à la télé.
C'est ça.
C'est un très bon marqueur.
C'est Barbecue et Ma Famille d'abord.
C'est Barbecue et Ma Famille d'abord. Exactement. Et pourquoi on l'a sélectionné cette série? Déjà parce que c'est pareil, elle nous a marqué dans sa catégorie avec Michael Kyle, donc Dan Wyans d'ailleurs qui a produit et réalisé la série pour beaucoup. Et justement, alors typiquement, hein, c'est ça.
De toute façon, c'est une production des frères Wyans. Ils ont produit énormément de comédies.
De toute façon, oui. Et là, c'est pareil. Hein, c'est typique d'une représentation particulière. Alors le côté un peu urban black, on va dire. Grosso modo, oui. Avec cette famille moyenne des États-Unis, avec le père de famille bon, qui fait office d'autorité, avec les trois gamins et l'épouse. Et en fait, on va suivre leurs aventures. Alors là, pareil, il va y avoir une réelle évolution hein, des relations entre personnages. Et bah, là, comme le nom l'indique, mais il faut quand même le préciser, parce que pour la discussion, c'est intéressant. En fait, on a... un peu dans cette émission le fil rouge des représentations de soi, de l'adolescence, de la famille, et ben là encore une fois différemment de La Nouve d'Enfer ou de Parker Lewis certes, mais encore une fois on a vraiment la famille justement qui est au centre du truc
et c'est la famille et surtout la famille black,
c'est ça
là. Parce que clairement là où Une Nouve d'Enfer c'était une, on l'a dit, une sitcom qui était très ancrée dans l'univers juif comique de New York, il y a eu toute une série de séries justement qui ont coupé avec ça dès les années 80-90, déjà à l'époque avec le Cosby Show et autres. Ouais. Et là, c'est ce genre de série-là, donc c'est une série, une sitcom black ouvertement là-dessus, ça joue sur ces références culturelles-là, sauf que c'est aussi une redite complète de toutes ces séries qui ont existé par le passé. C'est-à-dire que vous avez un croisement entre le Cosby Show...
Le Prince de Bel-Air un petit peu.
La famille d'abord, non, La vie de famille...
Merci prompteur.
Oui, j'ai mon prompteur à côté. La vie de famille et le Cosby Show avec voilà avec ben justement vous avez Steve Urkel qui est réimaginé dans la personne de Franklin, le petit génie qui vient dans la famille et qui est follement amoureux de la petite dernière. Donc et pareil, ça va aussi piocher énormément de situations et de références et d'épisodes de moments clés de la série dans la série Seinfeld, qui pour le coup, elle était ancrée encore une fois dans plus l'humour juif.
Jerry Seinfeld qui est culte, elle aussi, hein, on le rappelle,
oh, oui, si vous ne connaissez
pas.
Oui.
Alors pareil, hein, c'est, ça date pas d'aujourd'hui, pour le coup, si tu l'as dit, c'est bien plus vieux que Ma Famille d'abord, mais elle a été nominée des fois. Elle a vraiment marqué la culture, pour le coup, juive américaine. C'est vraiment
La culture américaine. Point barre. Et l'univers des sitcoms, c'est-à-dire que aux États-Unis, bon, tout le monde a, il y a énormément de monde qui cite Friends comme la sitcom par excellence. Si vous voulez, la sitcom qui a défini le genre en particulier, c'est Seinfeld. Donc c'est une série qui est basée sur le principe de base qui est il se passe rien. Vous avez des situations autour de choses qui normalement ne passeraient pas à la télé. Ouais. Des gens qui vont au resto, des gens qui se promènent dans la rue, des gens qui parlent entre amis dans un café. C'est pas des situations qui sont standards, et c'est Seinfeld qui a permis de casser ce mur-là et d'apporter ça à la télévision. Et à l'époque, ils en blaguaient beaucoup, c'est l'idée de faire une série sur rien. Et c'est Jerry Seinfeld et Larry David qui ont créé ça.
Ça, et
c'est vrai que dans Ma Famille d'abord, c'est quasiment que ça en fait.
C'est le concept des sitcoms. Toutes les sitcoms derrière sont articulées autour de ce principe-là. C'est des trucs qui concernent le quotidien et qui ne devraient pas passer à la télé. Mais c'est, au début, il a fallu quand même dynamiter un peu les
codes, ouais.
Les codes pour pouvoir avoir ça.
Et ce qui est intéressant, c'est que justement, les relations et les situations qui sont montrées font que du coup, ça déclenche des rires. Parce que typiquement, sitcom, on est dans une série dite à rire enregistrée. Et du coup, ça match de ce côté-là. Typiquement, hein, tu citais le cas d'une famille qui va au resto. Bon, il y a rien d'exceptionnel. Là, j'ai souvenir d'un double épisode quand même, hein, où toute la famille va au resto chinois.
Oui, mais ça, c'est justement basé. C'est une copie conforme d'un épisode de Seinfeld.
Ouais, ouais. Et c'est un vaste bordel. Ça part en vrille totale parce que on se retrouve avec une double famille qui se retrouve obligée de bouffer ensemble. Et les deux pères peuvent pas se blairer parce que Michael Kyle a une façon de faire qui
c'est le père, c'est un peu sa némésis,
oui,
non,
voilà.
C'est celui qu'on retrouve tout le temps. De toute façon, vous avez justement contraste culturel qui va se faire entre la famille black et la famille blanche qui va être habituellement du quartier et qui va être celle qui va poser problème avec le voisin un peu chiant ou le type un peu pénible. Je me rappelle d'un épisode où il se frite dans une station service aussi avec ce type là.
C'est ça qui commence justement l'épisode du restaurant.
À la
base il se frite parce qu'il y a eu l'histoire de la station service. Et ça part en vrille totale. Donc pareil, Marie, Ma Famille d'abord, bien marqué aussi.
Oui, alors du coup, forcément, comme c'est plus récent, il y a pour moi un tout petit peu moins ce côté nostalgie de l'enfance un peu. C'est vu que j'étais plus grande forcément quand j'ai commencé à regarder. Mais encore une fois, une série super drôle et toujours aussi avec à laquelle on porte pas mal d'affection parce que entre eux, les personnages sont durs et moqueurs mais toujours un peu mignons à la fois et puis Michael Kyle j'adore parce que parfois je me dis ça me ferait rire de faire ce qu'il fait à ses gosses, de le faire moi-même à mes enfants.
Il a décidé de punition.
C'est terrible, mais c'est super drôle.
Complètement imagé, complètement. Non mais c'est genre l'épisode de la tarte au citron, il est légendaire quoi.
Oui.
En gros, il cherche à savoir qui a fini sa part de tarte et en gros jusqu'à ce que ses enfants se dénoncent. Il leur fait bouffer de la tarte à tous les repas. Ils deviennent fous.
Mais il est complètement hystérique de toute façon, Michael Kyle.
Et c'est vrai que tu parlais du Cosby Show tout à l'heure, et je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Michael Kyle parfois qui dit à son fils un truc du genre qui ressemble comme dans le Cosby Show quand le père il dit à son fils non, c'est toi t'as pas d'argent, moi j'ai de l'argent.
Oui.
Le fils il demande de l'argent, il dit mais on a de l'argent, non, toi t'as rien, c'est moi j'ai
de l'argent. C'est ça, voilà. Bah oui, parce que du coup dans le Cosby Show c'est une des premières séries déjà un peu afro-américaine dans lequel on nous présente pas les blacks comme des miséreux, puisque c'est le docteur Cosby, il a de l'argent, il est respecté par tout le monde, ils ont une belle maison, etc. Et là c'est pareil, donc c'est des gens qui. On apprend dans la série, en ont bavé quand même, parce que Michael Kyle a monté son business de A à Z, il en a chié littéralement pour arriver là où il est, pour avoir de l'argent. Donc il vit bien, il travaille beaucoup, mais il fait comprendre à ses enfants que l'argent ça se mérite et qu'il faut travailler pour l'avoir, et il n'y a pas de passe-droit.
Et je trouve qu'à la différence de l'Anneau d'Enfer, il y a des dramas beaucoup plus prononcés, parce qu'il y a une fonction d'apprentissage en fait, il y a une fonction d'initiation à la vie finalement, qui est beaucoup plus bon enfant quelque part dans la nounou. Mais c'est parce que c'est pas la même époque aussi et pas le même délire, c'est sûr. Mais ce que je veux dire par rapport à Ma Famille d'abord, c'est qu'en fait, Michael Kyle est un père de famille. Et c'est un père de famille dur, on l'a dit, hystérique. Des fois, ça fait des situations complètement rocambolesques. Parce que même leur mère, elle en peut plus, quoi. Elle dit, mais arrête. Il veut tellement avoir raison qu'il ira jusqu'au bout. Mais il y a des moments, il y a des vrais dramas. C'est-à-dire, il y a un moment dans la série qui est clé, c'est un tournant, où en fait, Junior décide de se caser. Et en gros, il met sa copine enceinte, mais il le fait genre dans le lit de ses parents, en gros.
Ouais.
Et il le chasse de la maison.
Il le chasse de la baraque. Mmh. Il le chasse de la baraque, il le fout au garage. Et ça fait partie des instants un peu drama de la série, où en fait, le père lui dit, bah, t'as pas respecté les règles, si tu veux que je te fasse confiance et que tu sois considéré comme un homme, bah, montre-moi que je peux le faire, quoi. Et finalement, moi, cette série, elle m'a touché parce que ça parle d'une relation d'un papa à ses enfants, en fait. Et des enfants qui... Alors, on a dans la catégorie cliché, par exemple, on a Michael Kahl qui surprotège sa fille. Et l'idée même qu'un garçon pose ses yeux sur sa fille, c'est un sacrilège.
Bah, surtout que sa fille, c'est un peu la bécasse, clairement. Hein. C'est la bimbo, oui, Claire, complètement con comme ses pieds, ouais. Claire. Ouais. Derrière, vous avez Caddy, la petite, qui est toute adorable, toute mignonne, elle est assez gentille finalement, elle, ouais. Voilà, et qui elle a déjà un prétendant en la personne de Franklin, qui est génial, ouais. Et qui arrive souvent pour régler des situations ou autres.
Ouais.
Et vous avez Junior qui est probablement encore plus con que sa sœur, ouais. Parce que lui, c'est une catastrophe, quoi. C'est un crâne d'une taille, une pastèque, et du coup, il n'arrête pas de lui faire la remarque de toute façon qu'il est bête, et il met des calottes régulièrement derrière la tête pour le moindre truc. Et c'est assez violent, même le rapport qu'il peut avoir avec son fils junior. Ouais. Mais on se rend compte, en fait, parce qu'il est très exigeant envers lui.
Oui. Et aussi le fait que Junior ait mis sa copine enceinte pendant qu'ils sont assez jeunes. Je crois que...
C'est une redite de ce qui lui arrivait à Michael Kahl lui-même.
Exactement, ouais. Et c'est ça qu'il ne voulait pas qui arrive. Et donc, je pense que ça...
Juste au moment où il voulait faire des études, justement, Junior avait été pris dans une université. Ça avait été suffisamment compliqué comme ça. Il voulait faire des études, ils avaient des projets, etc. Et arrive ça... Je ne sais pas ce que c'était. Et arrive cette situation donc, qui vient un peu tout foutre en l'air, plus ou moins. Et c'est ce que voulait éviter les parents de Junior. Quoi, parce que c'est ce qu'ils avaient vécu eux aussi.
Bah, il y a un épisode que je trouve très significatif par rapport à ça, vous en rappelez peut-être, c'est justement peu de temps après que Junior a été exilé dans le garage, donc épisode assez dur hein, pour le coup. Ses parents essaient de le convaincre de suivre un stage de pour les jeunes parents, en fait, pour les futurs parents, et Junior refuse en disant ça va se passer, je peux gérer. Et en fait, il y a tout un épisode où Michael le torture en gros à sa façon, quoi. Donc au départ, c'est assez drôle parce que du coup, il lui file un ballon rempli d'eau avec des yeux sur le feutre, du feutre pour les yeux, pardon. on s'est compris.
Oui.
Et du coup, voilà, l'idée c'est tu t'occupes de ce ballon, mais je fais le pari qu'il survivra pas la semaine, le ballon. Et en gros, à la fin de l'épisode, donc Junior perd le pari, comme c'est surprenant. Mm. Et à la fin de l'épisode, il y a une scène assez touchante où en fait, Junior panique en fait parce qu'il comprend qu'il va être papa et que bah, du coup il y a une responsabilité à gérer, il s'en sent pas capable. Et en fait, son père lui dit, mais ce que je voulais te montrer aussi. Outre le fait de te donner une leçon, ce que je voulais te montrer aussi, c'est que ta mère et moi, on est là pour t'aider. Et en fait, je trouve que ce que dit la série à ce moment-là, c'est vachement touchant, en fait. La série ose aller aborder des sujets l'idée d'être parent assez jeune, l'idée de devoir assumer cette parentalité, voilà, c'est...
Alors par contre, juste je me permets d'aborder un truc qui m'a toujours surpris dans les séries, mais c'est peut-être parce qu'aussi c'est pas le but recherché, c'est... Ça arrive dans certaines séries où genre, la fille tombe enceinte jeune.
Ouais.
Et à aucun moment, on évoque le fait que peut-être c'est possible qu'elle avorte. Alors que, je sais que, aux États-Unis, malheureusement, on sait en plus avec les actualités, là, que
ça régresse.
C'est un gros sujet.
Oui, totalement.
Mm-hmm. Mais, je sais pas, ça m'a toujours surpris.
Les États-Unis, malgré tout, que ce soit des sitcoms, quelle que soit en fait la culture dans laquelle émane la sitcom, que ce soit juif, black ou autre, ça reste un pays puritain, soumis à un certain code moral qu'on peut difficilement... On peut pas représenter ce genre de choses.
C'est compliqué. Déjà, tu me parlais, il n'y a pas si longtemps que ça, dans Friends, du thème de la mère porteuse.
Oui.
Qui, chez nous, est interdit. Hein, et du coup, c'est un thème qui est quand même abordé par deux fois dans la série, ce qui est quand même assez fort. Et on se faisait la réflexion de la difficulté mentale que ça doit être pour la famille, pour la maman qui... Enfin,
pour la mère porteuse.
Pour la mère porteuse, plutôt.
Ouais.
Du traumatisme psychologique que ça doit être. Et c'est vrai que par rapport à cette idée de la parentalité liée finalement à l'avortement, de cette parentalité non voulue. Mm. Je te remercie d'avoir soulevé la question parce que je t'avoue que je ne m'étais jamais fait la remarque.
Ouais.
Mais en effet, le thème de l'avortement n'est pas évoqué. Que ce soit dans Ma famille d'abord ou autre série ou la jeune fille.
Alors que je trouve que c'est assez récurrent quand même dans les séries qu'il y ait une qui soit enceinte assez jeune, quoi.
c'est habituellement le drame récurrent dès que vous avez une ado en âge de procréer dans une série, ça va être l'élément qui va perturber sa vie.
Et, et c'est un peu la raison pour laquelle d'ailleurs Michael Kahl est tellement protecteur envers, envers Claire, parce que du coup, typiquement, elle est à un âge où, voilà, où on tombe amoureuse et où on a besoin d'être... d'être aiguillé sur, sur ce qui peut se passer, sur la vie, tout ça. Relation évidemment qui est beaucoup, beaucoup plus mignonne avec Caddy, qui est.
Oui, elle est loin de tout ça.
Elle est, voilà,
c'est,
la, c'est la petite innocente qui fait.
Oui, c'est l'amour enfantin.
Voilà, c'est l'amour enfantin, exactement. Mais voilà, je trouve que cette série abordait beaucoup de choses. Et puis même, même quand tu as Janet qui essaie de gérer son entreprise, qui prend des initiatives par rapport à Michael, comment Michael réagit, tout ça. Donc il y a plein de situations, comme tu le disais, comme vous le disiez tout à l'heure, des situations qu'on ne raconterait pas normalement, mais qui racontées de cette façon-là fait que ça marche, en fait.
Oui.
Donc voilà, une série aussi qui nous a tous marqués. Et c'est vrai que, comme je vous disais, qu'il est facile de voir et revoir, puisque...
Bah, attendez encore une semaine ou deux et allumez W9.
Elle va être diffusée... d'ici peu. Mais voilà, pareil, on vous la conseille. Tiens, d'ailleurs, ça me faisait penser au père de Vanessa, qui est quand même une sorte de némésis pour Michael.
Bah, il est terrifiant en même temps.
Il est terrifiant parce que c'est un mastodonte, mais par contre, il est con comme une chaise.
Ah ouais.
Voilà,
c'est complètement neuneux.
Dans un épisode, il raconte avoir mis une mandale à un cheval parce qu'il avait fait un bruit de cheval, quoi. Et quand Michael lui fait la remarque, mais il fait un cheval, il fait, mais là, il le fera plus maintenant.
Voilà.
C'est un Golgoth au sens propre du terme. C'est du muscle et pas de cerveau.
Cette espèce de vénération que Michael peut avoir envers Michael Jordan, tandis que Fran, c'était Barbara Streisand, qui elle voit un culte absolu. Donc voilà, c'est toujours cette espèce de running gag du culte de la personnalité. C'est très, très beau. Voilà, culturellement, pareil, le basket, l'importance du basket, le fait que Michael ne supporte pas que Junior puisse le battre au basket. Voilà, ça, c'est chez nous des codes qu'on n'a pas, mais aux États-Unis, la NBA, la saison de la NBA et tout, c'est quelque chose... d'ancré dans cette culture-là, et je trouve que la série le montre aussi.
Oui.
Voilà. Bon, eh bien, à moins qu'il y ait d'autres objections...
Je me disais juste que dans les séries vachement rediffusées, qui parlent aussi de la famille, et où ils sont aussi bien barrés, et où si jamais un jour vous avez l'occasion de... Je sais pas. Il y a Malcolm aussi.
Tout à fait.
Plus récente.
Plus récent. Mais alors, pareil, culte aussi à sa manière, hein, parce que Dewey et compagnie, ils sont, sont bien ch'tarbes aussi. Hein. Ils sont bien, bien ch'tarbes. Mais oui.
Ça m'y a fait penser.
Ah bah, mais tout à fait. Bah, c'est probablement un peu l'héritière aussi de ces séries-là, d'une certaine façon. Même si on est... C'est vraiment la série. C'est un peu moins de la sitcom. C'est pas le même, la même façon de procéder. Mais c'est une très bonne série. Tu fais bien de le souligner. Eh bien, écoute, j'espère que tu as pu trouver plaisir à être avec nous, Marie.
Complètement.
On a, c'est sûr, hein, on l'a dit, c'est sur un autre mode que ce qu'on faisait il y a des années de ça, mais quelque part, heureusement.
Heureusement, oui, heureusement, c'est une bonne chose, oui.
Heureusement qu'il n'y a pas de preuves, parce que, nom de Dieu, il y a de quoi monter un dossier.
Non, avec merci.
Oula. Voilà, voilà.
C'est intéressant de voir tout ça de l'intérieur, en tout cas.
Ah bah, écoute, hein, ça fait partie
merci.
Ça fait partie du petit jeu. Comme d'habitude, tu es la bienvenue pour revenir nous voir quand tu veux. Hein. Merci de t'être prêté à ce petit jeu-là. Merci pour la réal, Jonathan, comme d'habitude.
Il n'y a pas de quoi.
Et en petite conclusion de tout ça, alors sur une note un peu tristoune, j'ai envie de dire, mais ça tombe bien, le temps est merdique, alors bon, allons-y. Non, c'est tout simplement que tout récemment, Pierre Attey est parti, nous a quittés, quoi. Et en fait, Pierre Attey, pour ceux qui ne le situent pas, c'est tout simplement ni plus ni moins la voix française du Joker des vieilles séries animées de Batman ou du Doc de Retour à le futur. Voilà,
ou de Cortex dans Minus et Cortex.
Ou de Cortex dans Minus et Cortex, du Juge de mort dans Roger Rabbit. Forcément.
C'était la voix française
de Christopher Lloyd. Exactement. Et malheureusement, le temps, la maladie, l'âge fait que, évidemment, il laisse la place, malheureusement. Il est décédé il y a 2 semaines.
À peu près.
Ouais. 2 semaines de ça. Mmh. Et c'est une voix qui nous a marqué. Et on veut lui rendre un petit hommage à ce comédien avec un extrait de Retour au futur, donc la version française de Retour au futur. Voilà, donc hommage à lui et nous on se revoit en juillet pour une émission consacrée à Code Quantum. Allez, en attendant, passez un bon début d'été.
Salut à tous.
Ciao.
Oh, qu'est-ce que je t'avais dit ? 88 miles à l'heure ! Le déplacement temporel a eu lieu à exactement 1h20 et 0 secondes.
vous. Oh, mais c'est pas vrai. Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein.
Du calme, voyons, je n'ai rien désintégré du tout. Je peux t'assurer que les structures moléculaires d'Einstein et de la voiture sont intactes.
Intactes? Mais merde, où sont-ils?
Tu devrais plutôt demander, mais merde, quand sont-ils? Oh. Tu vois, Einstein vient de devenir le premier être vivant à voyager dans le temps. Je l'ai envoyé dans notre futur.